L'action se passe dans un navire spatial au retour d'un voyage interplanétaire.
Oui, enfin moi je parlerai plutôt de mobylette cosmique. Bonjour et bienvenue sur les routes de la musique. Aujourd'hui, nous ne poserons qu'une seule question. Esprit, es-tu là ? Mais de quel esprit parle-t-on ? L'esprit de la foule ? L'esprit groupe ? Le grand esprit ? Avoir de l'esprit ? L'esprit de famille ? L'esprit de sacrifice ? L'esprit du vin ? L'esprit de l'entreprise ? L'esprit de Noël ? Nous allons explorer ces chemins subtils qui nous relient les uns aux autres, parfois à l'insu de notre plein gré, comme dit le grand philosophe Richard Virenque. Nous allons tâcher de décortiquer ces liens qui nous engluent parfois au groupe, d'où nous voudrions nous extraire. Cette chose qui nous fait naviguer entre la solitude vertueuse et l'ivresse de la bande, entre la verticalité du solo et l'horizontalité de la chorale. Et nous verrons justement, au cours de la leçon de piano, comment organiser un solo sur la masse de notes que constitue l'accord. Et à propos d'accord, nous verrons comment être in et comment être out. Et tout ça, bien sûr, sur fond de pyramide, parce que les Égyptiens, ils nommaient tout ce qui nous tourmente. Ils savaient tout soigner, tout, sauf les rages de dents.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Jusqu'à nouvel ordre, ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides.
Des trucs pointus, là.
Et le sphinx ? Et la tour de Pharos ? C'est quoi ? De la gnognotte ?
Oui, enfin, ça date pas d'hier, hein.
Que ce soit hier ou aujourd'hui, mon peuple est le plus grand de tous les peuples !
Au cours des semaines précédentes, nous nous sommes interrogés sur la sagesse du peuple égyptien, qui, non content d'avoir trouvé la quadrature du cercle dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, était capable de prévoir une éclipse de lune, oui. Et pourtant, cette sagesse ne l'empêchait pas de vénérer des animaux. Cette chose qui nous semble aujourd'hui barbare, puisqu'elle fait partie des anathèmes des monothéismes, tu n'adoreras pas d'idole, encore moins de représentation animale. Pour expliquer ces cultes de personnages à tête d'animaux, nous avons dû recourir à la notion abstraite d'esprit groupe, que je redéfinis rapidement. L'esprit désincarné des animaux flottant dans l'éther au-dessus de la meute pour la guider. Cet esprit étant la première entité qu'un homme qui sortirait de son corps pour faire un petit voyage dans le monde astral rencontrerait.
Je croyais que c'était pas réel.
L'esprit pense que ça l'est. On ne peut survivre sans l'esprit.
Pour les esprits cartésiens qui ne croient pas aux esprits, notons qu'ils en sont pourvus d'un, qui leur permet justement d'affirmer qu'ils ne croient pas aux esprits. S'ils ne croient pas aux esprits, ils ne peuvent donc croire ce que leur dicte leur esprit. Donc leur esprit qui leur dit que l'esprit n'existe pas, n'existant pas lui-même, les esprits existent bel et bien. Permettez-moi ce petit paradoxe crétois que je vous rappelle avec plaisir. Jouez à ça avec les enfants dans la voiture. Michel est crétois. Michel dit « Tous les crétois sont des menteurs, donc Michel ment. Donc les crétois ne mentent pas. Donc Michel dit la vérité, à savoir « Tous les crétois sont des menteurs. Mais Michel est crétois, donc il ment. » Donc, vous l'avez compris, les mises en abîme, c'est bon pour se perdre. Les Japonais pratiquent cet art consommé de flinguer la logique dans le cerveau afin d'accéder soudain à une autre forme de conscience. Bon, pour Michel, la solution est simple. C'est quoi la solution? C'est que tous les crétois sont des menteurs, sauf un, celui qui le dit, Michel. Et pour une fois, c'est celui qui le dit qui n'y est pas.
Et le serpent se mord la queue. Tiens, tiens, elle ne viendrait pas d'Égypte, cette expression?
C'est l'Égypte ancienne, tout simplement. Vous connaissez les pyramides d'Égypte, Khéops, Khéphren, Mykérinos, les trois principales pyramides. Et sur la plus petite, la pyramide de Mykérinos, il y a une grande gravure à l'entrée de la pyramide qui est un serpent qui est enroulé sur lui-même. Lorsqu'on entrait dedans, on pouvait pas en sortir, on se perdait tout le temps. Et on revenait toujours au point de départ, on n'arrivait jamais à en sortir. Et donc, depuis, on a gardé l'expression du serpent qui se mord la queue.
Et alors, on a beau emprunter toujours des routes différentes, on se retrouve toujours au même point de départ. Et le point de départ, bah c'est l'Égypte.
Don't play that song you lied de la sublime Aretha Franklin. Pour ceux qui ont des doutes sur ces esprits qui nous gouvernent, tâchons de voir ça d'un point de vue sociologique. À travers la définition de la mode, par exemple.
Si ça existe déjà, ça ne m'intéresse pas.
Arrête de penser logique. Pense mode.
Un point, c'est tout.
La mode, c'est la rencontre d'un créateur avec le désir d'une foule. Mais ce désir, la foule n'est pas capable de le formuler. Il est à l'état latent. C'est l'artiste qui, en anticipant, en ayant une forme de vision prémonitoire, va lui donner une forme, justement. Et la foule va reconnaître ce désir qu'elle ne savait pas exprimer et se ruer donc sur sa représentation, que ce soit une paire de pompes, un smartphone ou ce que vous voulez. Une foule a donc un esprit. Il faut être au moins une dizaine pour que ça marche. Et dans ce cas, l'agrégation psychique du groupe va produire un esprit collectif que l'on nomme égrégore. Les acteurs de théâtre connaissent bien ce phénomène. Alain Cuny, ce formidable comédien des Visiteurs du soir de Marcel Carnet à la Dolce Vita de Fellini, raconte que lors d'une représentation d'une pièce qu'il jouait pour la 100e fois, à force de répéter le même texte, il était entré dans une sorte de transe et avait vécu l'expérience incroyable de sortir de son corps pour entrer en contact avec l'esprit de la salle, l'égrégore.
C'est aussi dans la répétition que naît la conviction. Alain Cuny est d'accord.
Je vous aime. Personne ne pourra m'empêcher de vous aimer.
Je vous aime. Je vous aime.
Personne ne pourra m'empêcher de vous aimer. Vous aimer. Vous aimer.
Je vous aime.
Allez, répétons tous ensemble. On s'aime. Personne ne pourra nous empêcher de nous aimer.
On s'aime. Personne ne pourra nous empêcher de nous aimer.
L'amour, toujours l'amour, et puis encore l'amour. Autrefois, au moins, on chantait la guerre, la chasse. Désir de se battre, de tuer.
La paix sur Terre, c'est pas difficile à envisager, voyez-vous. Il suffit qu'on se le dise.
L'idée que l'intelligence d'une foule est celle du plus idiot de ses membres est un vieux poncif qui sévit encore chez certains hommes politiques ou autres programmateurs de télévision. Mais l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. À la fin du 19e siècle, un médecin et sociologue français, Gustave Le Bon, dans son livre « Psychologie des foules », écrit « Les foules sont régies par une loi d'unité mentale. Elles ont en quelque sorte une âme, avec des passions et un fonctionnement organique comparable à celui de l'esprit humain. Des milliers d'individus séparés peuvent à certains moments, sous l'influence de certaines émotions violentes, un grand événement national par exemple, acquérir les caractères d'une foule psychologique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'intelligence moyenne des individus qui constituent la foule ne change pas grand-chose à ses actions. Par exemple, les verdicts de jurys formés d'individus hautement éduqués ou d'individus très hétérogènes quant à l'éducation sont similaires.
La morale de cette histoire, c'est que, qu'on soit intelligent, con, futé, gâteux, l'important, c'est de rester groupé.
Groupir ! Il faut rester groupir !
Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble.
Alors, restons tous ensemble à l'écoute des routes de la musique.
Les routes de la musique. André Manoukian sur France Inter.
Comme on nous parle, comme
et triste et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales avec soif d'idéal. Tirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment.
Francis Galton, un anthropologue anglais de la fin du 19e siècle, raconte cette expérience. À la foire agricole à laquelle il se rend, un concours récompense celui qui pourra estimer combien de kilos de viande donnera un bœuf exposé une fois qu'il sera dépecé. Des personnes très diverses participent à ce concours, des professionnels de l'élevage, mais aussi de simples curieux. Galton se fait remettre les estimations des 787 participants pour les représenter sur un graphique. Puis, il calcule l'estimation moyenne de l'ensemble des participants au concours. Comme ceci était un mélange de quelques individus compétents et d'une masse d'individus ignorants, il est certain que l'estimation va être très éloignée de la réalité. Mais Galton se trompe. L'estimation moyenne des participants au concours était de 1197 livres de viande. Or, après avoir été abattu et dépecé, le bœuf du concours fournit 1198 livres de viande. Une seule livre de viande de différence. Loin d'être stupide, l'estimation moyenne de la foule était la meilleure que l'on puisse trouver, plus proche du résultat réel que chaque estimation individuelle. Une étude récente menée par le magazine Les Nouvelles Psychologies rapporte des résultats étonnants. Deux groupes sont composés, un premier avec des personnes sélectionnées selon un haut degré d'intelligence et l'autre avec des gens d'un niveau moyen, mais disposant d'une forte capacité d'empathie. Ils se voient tous assigner la même tâche. Étonnamment, les groupes ayant un potentiel émotionnel obtiennent des résultats bien plus élevés que les groupes des super-intelligents. Les empathiques ont développé, avec leur connexion, une intelligence de groupe supérieure aux gens ayant une intelligence séparée, mais qui n'était pas unie. Le plus important, donc, dans une foule, c'est la puissance de connexion.
Aujourd'hui, il faut bien le dire, on est tous grave connectés.
La 4G, liaison Internet mobile de dernière génération, est disponible pour le grand public.
André poste sur Twitter une photo de son chien qui course une marmotte.
Elle est 4 fois plus rapide que les connexions ADSL qui équipent la plupart de nos maisons. 100 mégabits seconde.
Le petit sablier, on attend des fois quelques secondes. Avec 4G, c'est vraiment tout de suite, quoi.
André crée-t-il pour autant un seul être avec un seul cœur, avec ses followers, son chien et la marmotte ?
L'esprit devient alors puissant parce qu'il absorbe tous les sentiments des personnes connectées. Une seule image est créée à partir de la multitude, comme une personne avec un seul cœur.
Bye.
La foule psychologique est un être provisoire formé d'éléments hétérogènes qui pour un instant se soudent, nous dit Francis Galton, anthropologue anglais de la fin du 19e siècle. Comme les cellules qui constituent un corps vivant forment par leur réunion un être nouveau manifestant des caractères fort différents de ceux que chacune de ces cellules possède. Tout récemment, des biologistes ont découvert un banc de poissons dans lequel les poissons de tête ont des yeux plus développés, ceux des côtés ont une peau plus lisse pour aider à la glisse et ceux du fond sont spécialisés dans la reproduction. Force leur est de constater que ce banc est un organisme à part entière.
Dans la foule, chacun a une voix différente. Mais tous ensemble, ça fait un nouvel être, une nouvelle force.
Paroles données à tous, dites par tous, et qui ne semblent avoir été dites encore par personne.
Encore par personne.
Plus de je, plus de vous, mais du nous.
Nous.
Le nous n'est ni tactique, ni collégial, ni rebelle. Il traduit la présence immédiate du pluriel dans la parole politique.
Si tout le monde dit « nous », il n'y a plus de jeu, et alors il n'y a plus de roi, plus de chef, tat, plus de problème, quoi.
Soyez
réaliste.
Demandez l'impossible.
Demandez l'impossible.
Soyons réalistes. Demandons la chute des pyramides sociales.
L'imagination
prend le pouvoir.
En contrepartie, demandons le retour des esprits égyptiens.
April in Paris, chantait Sinatra. J'aime Paris au mois de mai, lui répond Aznavour. Nous voilà à Paris en mai 68. Rendons-nous dans une AG, une assemblée générale, pas des actionnaires, des étudiants bien révolutionnaires qui prennent la parole dans un joyeux chaos. Au fond de l'amphi, quelques personnes goguenardes, mais avec un œil terriblement brillant, observent la scène, les prises de parole, les prises de bec, les jeux de pouvoir, les engueulades, les injonctions contradictoires. Ce petit groupe, nous le nommerons le groupe Delta. Petit à petit, ce groupe pousse et encourage un orateur qui se distingue de la masse des étudiants. Celui-ci, se sentant soutenu, s'enflamme, devient de plus en plus convaincant. L'AG entière finit par se faire embarquer par cet orateur qui devient rapidement un leader. Une fois que son ascendant sur l'Assemblée est acquis, le groupe Delta qu'il a soutenu au début le descend soudain en flammes jusqu'à ce que la foule eût celui qu'elle portait au nu quelques instants auparavant. A-t-il changé son discours ou son attitude? En rien. Simplement, le groupe Delta l'a dégommé.
Mais jusqu'à présent, ces gens-là étaient les valets du capitalisme.
Le seul problème, c'est effectivement d'avoir leur accord.
Et voilà qu'un autre orateur est soutenu maintenant par le groupe Delta. Quelques passes oratoires plus tard, l'amphi lui est acquis. Alors le groupe Delta le descend à son tour en flamme et ainsi de suite. Cette technique était celle des situationnistes. Ce mouvement surréalistico-poético-libertaire, qui ne tient dans aucune définition, s'appliquait à faire émerger des leaders dans les assemblées générales pour les dégommer ensuite consciencieusement afin que la foule se rende compte qu'elle n'a pas besoin de leader et qu'elle peut acquérir une conscience de son pouvoir sans le déléguer à une personne qui deviendra tôt ou tard un despote, fût-il le plus saint des hommes.
Power to the people.
Bon, en attendant que le peuple ait le pouvoir, André, expliquez-nous comment ça se passe en musique. Qui prend le pouvoir et comment ?
Cher Elsa, on va dire que la foule, ce sont les accords. Okay, une agrégation de notes qui va dégager une harmonie. L'harmonie étant l'esprit de la foule. Alors, une agrégation de notes formant des accords, on va encore partir avec notre gamme majeure diatonique, la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, que nous allons monter en accord. Donc on va dire que ça, c'est la foule. Voilà un accord, en voilà un autre, en voilà un autre. Sur ces 7 accords qui sont possibles, je les joue dans un ordre aléatoire et puis j'ai quelque chose qui se dégage. Ce quelque chose, c'est la gamme de Do qui me les donne. Mais maintenant, j'ai une foule, j'ai une chorale qui chante comme ça, à l'unisson, mais j'ai rien qui est forcément dit. Ce qui va se dégager de ces accords, ça va être un solo, un discours. Quelqu'un se détache. On va dire qu'on est dans une chorale de gospel, par exemple. Et puis tout d'un coup, qu'il y a une soliste qui va s'avancer, elle va s'extraire du groupe. Et qu'est-ce qu'elle chante ? Il faut qu'elle soit en accord, en harmonie avec celles qui sont derrière. Je prends cet accord-là, de Ré mineur, par exemple, Ré, Fa, La. Alors, on va faire extrêmement simple. Leçon d'improvisation pour les débutants. Je vais commencer par jouer la fondamentale. Là, je ne peux pas être faux. Mais si je joue les accords du Ré à la main droite, je ne fais que répéter platement ce que dit la foule. Pour dégager un récit, je vais faire ce qu'on appelle une mélodie avec des notes conjointes. Les notes conjointes, ce sont les notes qui se suivent comme ça. Parce que là, tout de suite, j'ai... Alors, on va faire très simple, je vais faire avec 3 notes conjointes qui partent de la fondamentale de l'accord. Je répète, j'ai un Ré mineur, et je pars sur mon Ré à la main droite, et puis je vais monter les 3 premières notes de la gamme. Maintenant, je vais prendre un accord de Sol. Ah là, j'ai quelque chose qui commence à se dessiner. Je fais exactement le même principe sur l'accord de Sol, je pars du Sol, et puis je monte les 3 premières notes conjointes de la gamme. Je répète. Et puis maintenant, je vais faire mon accord de Do. Et puis Fa, la même chose. Et puis Mi. Et puis La. Alors, maintenant, je vais renverser l'ordre de ces 3 premières notes. Je suis toujours sur 3 notes. Et là, je commence à lier ces 7 structures répétitives. C'est-à-dire qu'au lieu de faire Ré, Mi, Fa, et puis La, Si, Do, ce qui donne un discours discontinu, puisque, regardez. Je vais essayer de lier la chose en anticipant. Et tout d'un coup, il y a un récit qui commence à se construire à ma main droite. Ça veut dire que le soliste s'est servi de l'énergie de la chorale pour s'appuyer. Et puis tout d'un coup, il va avoir des ailes. Il va commencer à dire des choses. Et là, c'est la chorale qui va le suivre maintenant. C'est lui qui devient le leader. Il a pigé le truc. Il a pigé l'esprit des accords. Il sait qu'il ne peut pas être out. Et à ce moment-là, ce sont les accords qui vont suivre ma main droite. C'est comme ça que ça se passe dans la tête d'un pianiste qui essaye d'improviser. Puisque l'improvisation dans le jazz, elle se fait à partir d'une grille d'accords. Donc c'est ça qui nous donne, le collectif pour que plusieurs instrumentistes puissent jouer ensemble. Si on n'a pas une grille d'accords qui nous réunit, ça va être une cacophonie horrible. Il y en a un qui va faire ça, l'autre il va faire ça. Alors là, on est tous sur la même grille d'accord, et puis tout d'un coup, c'est à chacun de prendre son solo, c'est-à-dire de prendre un petit peu, pas l'ascendant sur les autres, mais de s'exprimer grâce à l'aide des autres musiciens. Et ce qui se passe dans la tête d'un pianiste quand on est tout seul et qu'on improvise, c'est que dans un premier temps, c'est la grille qui dicte, qui donne la tonalité. Donc, je la suis là, ma grille. Je cherche un petit peu, je tâtonne, je pars au hasard. Et puis là. Et là, je répète toujours trois petites notes. Et là, ce sont mes accords qui suivent. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est ce quelque chose, c'est, ça consiste simplement à répéter un motif, à le transposer et puis à le faire évoluer. Jusqu'à ce que je trouve une phrase, jusqu'à ce que je trouve une manière de la commencer et surtout une manière de la finir. Alors maintenant, on va faire un solo in et un solo out. Quand je suis dans l'harmonie, je ne heurte pas les oreilles puisque, encore une fois, je joue dans une gamme qui me permet de ne pas faire de fausses notes. C'est quoi une fausse note ? C'est si tout d'un coup, dans ma gamme de Do, je commence à faire un Do dièse. Vous voyez comme ça sonne faux, là, c'est horrible. Hein, ça, c'est horrible jusqu'à ce que je résolve sur le Do. Là, j'ai créé une tension qui est la pire, puisque c'est, on est une tension d'un demi-ton, mais tout d'un coup, si je ramène ça sur le Do... Donc je joue out, je suis en dehors de l'accord, et c'est le pire que je puisse faire puisque je joue un accord de Do dièse sur un accord de Do. Sauf que... je résous. Et là, tout d'un coup, mon discours qui était out prend du sens. Cette tension qui était terrible, dissonante, mais qu'est-ce qu'il dit ce mec-là ? Ah oui, d'accord, c'est là qu'il voulait en venir. Je vais faire la même chose avec le Do. Je vais jouer un Si majeur sur un Do. Ça, c'est affreux aussi. Mais si je fais... waouh, là, je vois la lumière. Ça fait du bien. Le In... et le out. Oh yes. Pourquoi j'ai dit oh yes ? We'll be right back.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
La blague des situationnistes nous en dit long sur le rapport entre une assemblée et son leader. Le rêve utopique de voir une foule prendre conscience de sa force sans le truchement d'un guide semblerait à portée de clic par la grâce des réseaux sociaux, mais les nouveaux fureurs sont déjà dans la place. Une entité quadricéphale comme les quatre figures du pharaon qui règne sur la Haute Égypte. Une entité quadricéphale nommée GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Revenons sur les rapports entre un peuple et son chef. De la même manière qu'un créateur de mode entre en contact avec le rêve d'une foule pour lui donner forme, la meilleure définition étant le slogan publicitaire « Tu en as rêvé, Sony l'a fait », un leader se doit d'exprimer le ressenti d'une foule, de ses pulsions les plus abjectes à ses rêves de grandeur. Celui qui met des mots sur les émotions des gens se voit immédiatement remercié par la foule qui reconnaît enfin ce désir obscur qu'elle ne savait pas formuler. La foule voit son esprit incarné dans une personne qui devient surpuissante puisqu'elle est la somme des milliers d'âmes qui l'investissent de leur ferveur. Voilà pourquoi Charles Aznavour ne peut pas s'arrêter de chanter. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy se représentera sans fin à toutes les élections. Quand vous êtes investi de l'amour d'une foule, vous êtes porteur d'une puissance addictive qui rend difficile les parties de Scrabble avec vos petits-neveux à la maison. Vous avez déjà étreint Patrick Bruel qui sort de scène ? On a l'impression d'embrasser un réacteur nucléaire. Tout cet amour matérialisé sur les corps offerts des idoles.
Vous. Êtes-vous là ce soir ?
L'amour se distribue à travers la foule. Prends de l'amour. Mais prends garde, l'amour est une drogue.
Hier encore. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps.
Aujourd'hui encore, Charles Aznavour a 92 ans et il chante en caressant la vie.
J'aurai 55 ans dans deux jours, c'est quand même pas un âge Kakushima.
Vous étiez déjà là quand j'ai cassé ma voix.
Aujourd'hui encore, Patrick Bruel ne s'est toujours pas cassé.
Je comprends que ça vous pose problème, mais c'est la vérité.
Patrick Bruel, Charles Aznavour, Nicolas Sarkozy, c'est nos idoles actuelles, ça ?
Je comprends absolument pas cette question. Madame, voulez-vous qu'on reprenne exemple par exemple ?
André, vous auriez tout de même pu choisir des exemples plus réjouissants.
Bon, revenons à notre pharaon. C'est son statut de divinité qui contribue dès le début à bâtir la civilisation égyptienne. L'Égypte s'étend sur près de 3000 kilomètres. Dans sa proto-histoire, elle a accueilli sur les berges du Nil au cours des millénaires des nomades, des éleveurs, des paysans, des Africains au sud, des Berbères au milieu, des Asiatiques et des Sémitiques au nord. Comme elle était protégée des invasions par le désert, la mer Rouge et la Méditerranée, elle a eu le temps de fusionner sa population paysanne au gré des balades sur le Nil du pharaon, qui développait au cours des ans une administration de plus en plus puissante, jusqu'au jour où l'agrégation réussie donne deux royaumes, la Basse Égypte au nord avec le delta du Nil et la Haute Égypte au sud jusqu'à la frontière de la Nubie. La civilisation était plus avancée au sud, en témoignent les fragments de poterie que l'on retrouve dans les fouilles, beaucoup plus sophistiqués qu'au nord. Et c'est un roi du sud, Ménès, qui sera vainqueur du nord et qui fera donc l'union des deux royaumes, tout en respectant leur diversité, ce qui fait qu'il portera sur son front altier la double couronne. Ce pharaon, le premier selon la tradition, va donc être investi par son peuple d'un pouvoir magique qui fera de lui le premier prêtre du royaume. La semaine prochaine, nous continuerons notre voyage en Égypte. Après avoir examiné l'esprit sous toutes ses formes, nous nous embarquerons dans l'au-delà des Égyptiens. Cette émission était réalisée par l'esprit régulateur et apaisant de Fanny Beaujon. La voix était celle de l'esprit frappeur et facétieux d'Elsa Denac. L'enregistrement était assuré par l'esprit organisateur et équalisateur de Anne-Laure Cochet. À la semaine prochaine.